Le Brownbag Lunch Live, c'est un podcast un peu particulier parce qu'il est enregistré en live et en simultané sur LinkedIn et YouTube. Ici, ce sont les spectateurs qui posent les questions à notre invité. Aucune préparation, tout est en direct. L'invité a 2 minutes pour nous parler du thème du jour et 28 minutes pour répondre au feu roulant des questions des participants. It's showtime, mes amis. Showtime, oui, 12h30. Comme chaque lundi, on se retrouve pour un Brownbag Lunch Live. Ce nom totalement imprononçable, c'est le rendez-vous du lundi avec une invitée ou un invité. Et on vous parle de sujets qui sont très intéressants. Ah oui, qui sont très intéressants. Vous êtes peut-être déjà posé la question, comment on fait son rebranding? Comment, quand on a commencé à installer une marque, parce que les circonstances l'exigent, on change tout, on décide de changer son branding? Pour vous en parler, je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné de notre amie Sophie Cornet. C'est la CEO de Chosen, ex The Reporter. Mais je vais la laisser d'abord se présenter. Bonjour Sophie, comment ça va?
Bonjour PPC, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter très brièvement, donc je m'appelle Sophie Cornet, j'ai 32 ans. Je suis la fondatrice et CEO de Chosen, qui est une plateforme de mise en relation pour trouver le bon coiffeur. Et donc je vais vous parler aujourd'hui du rebranding qui a eu lieu chez nous il y a 3 semaines.
Alors, c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est du rebranding. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu? Donc, avant, c'était The Reporter, puis ce The Reporter, tout d'un coup, tu décides avec tes associés de tout changer. Tu peux nous parler de comment vous y êtes pris? Qu'est-ce qui a été dans les principes fondamentaux pour dire « il est temps de changer »
En fait, donc ça fait un moment, nous, qu'on ressent le besoin de changer de nom. C'est venu au départ d'un pivot qu'on a effectué en 2017, puisque à la base, donc moi, l'histoire a démarré par une newsletter, puis un blog qui s'appelait The Reporter. Donc là, le nom avait vraiment du sens parce qu'on allait mener, entre guillemets, l'enquête dans les salons. Et puis, on a pivoté vers une plateforme de mise en relation. Donc, on est devenu un service avec comme mission de trouver le bon coiffeur pour chaque client. Donc, le nom The Reporter n'avait plus forcément autant de sens sur la plateforme. Et il y a une deuxième raison qui, là, est plus une raison de com, on va dire. On s'est rendu compte que le nom n'était pas toujours très bien orthographié ni très bien prononcé. Et donc, ça n'aidait pas forcément à faire grandir sa notoriété.
Donc ça, décision prise, après plusieurs années, on va changer le nom. Ok, alors qu'est-ce qui arrive tout de suite? Vous dites, ok, mais vous passez, donc on vient de voir le why, le how, vous faites comment? Ouais, ça, comment ça se passe? Et puis le quoi aussi?
Alors en fait, on a décidé d'attendre un gros changement aussi, nous, au niveau de la structure, parce qu'en fait, quand on a lancé la plateforme en 2017, on avait lancé une première version avec très peu de tech, un back-office qui nous permettait, nous, de sourcer les commandes, de faire tous nos diagnostics par téléphone ou par mail, et puis ensuite de procéder au paiement et d'organiser les rendez-vous. Donc, on a passé plusieurs années à tester ce modèle, à essayer de comprendre ce qui faisait un bon diagnostic, et puis aussi voir ce qu'attendaient vraiment les coiffeurs en termes d'accompagnement. Et on savait que la step suivante, ce serait vraiment de digitaliser l'ensemble et le service, dont le diagnostic. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille sur l'intégration du diagnostic au sein de notre plateforme. Et donc, on s'était dit qu'on attendrait le lancement de cette nouvelle version qui est quand même très importante pour nous, aussi bien côté opérationnel que au niveau de l'expérience client, pour changer de nom. Donc, on avait prévu vraiment de faire ça d'un coup, donc un vrai lancement et rebranding. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu tout le nouveau parcours client à créer et ensuite le rebranding en lui-même avec aussi une refonte graphique puisque pour nous, c'était important que l'univers de la marque soit vraiment 100% en lien avec ce nouveau nom Chosen.
Le nom, vous y êtes pris comment pour le choisir? Pas évident. C'est une sacrée étape aussi de parce que bon, vous disiez The Reporter finalement avait fait sa part de job. On décide de changer. Comment on s'y prend pour trouver le nom qui celui-là on va pas le changer tous les 4 matins. Comment vous avez fait?
En fait, ça a été du brainstorming. On l'a fait complètement en interne. En fait, on avait travaillé avec deux personnes sur l'ancienne identité de The Reporter. Nous, on avait évoqué à l'époque que le nom commençait à nous poser problème. Et c'est vrai que ça avait été confirmé par les gens qui nous accompagnaient sur le sujet, qui disaient qu'effectivement, ce serait mieux de trouver un nom plus facile à prononcer, plus court, et aussi un nom qui évoque beaucoup plus ce qu'on fait. Et dans ce qu'on fait, j'entends notre différenciation sur le marché, le fait qu'on fasse vraiment du matching, de la sélection, qu'on aille choisir le bon coiffeur pour chaque cliente. Et donc, on est parti de ce sujet-là. On a énormément brainstormé. Et à l'époque, on était toutes les deux avec Marie sur ce sujet. Et il y a eu plusieurs mois, en fait, de réflexion. On avait envie que ce nom vienne de nous. Donc, voilà, c'était régulièrement des échanges. Et puis, un jour, le nom est sorti. Et on a été toutes les deux d'accord sur le fait que c'était le bon. On l'a évidemment testé un peu autour de nous. Et c'est comme ça qu'on a fini par le choisir.
C'est comme ça que vous allez finir par le choisir. Bonjour à Christian, Patrick et Virginie qui nous ont notamment rejoints sur LinkedIn. Merci à vous, n'hésitez pas. Vous le savez, ce format, c'est vous qui êtes ceux qui interviewez nos invités. Donc, merci pour vos questions. On va continuer comme ça. Sophie, ça vous a pris combien de temps ? Ça coûte combien quand on change de nom ? C'est pas une question d'argent, mais c'est une question de focalisation, parce que tu es dans une start-up, vous avez créé une start-up, donc chaque minute compte. Tout d'un coup, de se dire, allez, on va se repositionner, retravailler notre branding, ça vous occupe quelle place dans votre esprit et dans le temps que vous consacrez au développement de votre activité ?
Je pense que sur l'équipe com, aussi sur l'équipe tech, ça a dû prendre à peu près la moitié du temps pendant les 3 mois qui ont précédé le rebranding, avec toute une phase de préparation, donc là où il y a eu toute la revue de l'identité graphique, la faire coller avec ce nouveau nom, et puis ensuite tout le déploiement et la préparation du déploiement sur tous nos supports, parce que la particularité quand on fait un rebranding, c'est que tout est déjà en place, tous les supports réseaux sociaux, nous, tous nos supports de communication emailing, tous nos supports en interne. Et donc, il a fallu travailler toute cette transition. Donc, je pense que pendant un mois et demi, avant le lancement, l'équipe com devait y consacrer 80% de son temps. Et ça lui a pris un petit peu plus de temps aussi, on va dire un mois et demi avant. Donc, je pense que ça nous a bien occupé pendant 3 mois.
Ça vous a bien occupé pendant 3 mois. Et puis, le jour J, puisque là, on est début mai, au moment où on est ensemble pendant ce live, vous avez démarré ça début avril. Quand on appuie sur le bouton quelques minutes avant, on ressent quoi en termes d'émotion ? C'est un grand moment.
Il y a un petit stress. En plus, nous, on lançait tout un nouveau site. Donc, heureusement, il y avait eu beaucoup de tests en amont et notre CTO avait fait très attention à ça, justement, à ce qu'il n'y ait pas de plantage le jour J. C'est vrai que la grosse pression, entre guillemets, c'était aussi sur le changement de nom sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux anticiper. Là, c'est vraiment du live. Donc, le 7 au matin à 9h, on avait l'équipe qui était en train de changer tous les noms sur Instagram, qui est le réseau sur lequel on est le plus présent, sur Facebook. Il fallait attendre de vérifier que ça prenait et ça enregistrait bien le nouveau nom. Donc ça, c'était un peu le petit moment suspense. Et ensuite, nous, on avait teasé un petit peu sur ce lancement et on a tout de suite commencé à communiquer avec des nouveaux visuels. On a tout de suite expliqué un petit peu cette nouvelle marque, le pourquoi qui allait changer, ce qui n'allait pas changer. Il y avait un vrai travail de réassurance à faire. Et donc ça, c'était le travail, on va dire, des 2-3 premiers jours, sachant qu'il y avait aussi une préparation en amont. Nous, au sein de l'équipe en interne, évidemment, tout le monde était au courant, mais on a aussi informé toute notre communauté de coiffeurs bien en amont, 10 jours à 2 semaines avant, pour les intégrer vraiment à ce changement et qu'ils deviennent aussi porteurs de ce nouveau nom.
Ce qui m'amène à penser, est-ce que tu as eu, au niveau des retours, c'est-à-dire que vous avez préparé, il y a effectivement la communauté de coiffeuses et de coiffeurs, puisque vous êtes une plateforme, hein, et puis il y a les clientes. Est-ce que les retours ont été différents de la part, finalement, de ces deux typologies d'acteurs qui sont clés dans votre business ?
Non, on a eu à peu près les mêmes retours. Enfin, globalement, on a des retours hyper positifs, donc on est ravis. Ça faisait vraiment sens pour nous et ça a l'air de faire sens aussi pour nos coiffeurs et nos clients. Nos coiffeurs ont été hyper surpris au départ, parce qu'on avait gardé un petit peu la surprise. Surpris, mais hyper enthousiastes. Ils ont adoré à la fois ce nouveau nom, mais aussi l'identité. Ils ont trouvé que ça leur ressemblait beaucoup et ça, c'était un vrai pari. Donc plutôt en phase sur les deux, avec un vrai engagement, on va dire, du côté des coiffeurs qui se sont un peu emparés de ce nouveau nom et de cette nouvelle identité.
Christian qui te demande, est-ce qu'il n'y a pas eu d'incidence négative ou de perte lors du changement de nom avec les dispositifs tiers comme les réseaux sociaux ? Tiens d'ailleurs, retour d'expérience, il y a de la perte ou pas quand on change de nom ?
Alors, pas sur les réseaux sociaux. Nous, clairement, ça, c'était la bonne surprise, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, qui sont les quatre réseaux sur lesquels on est vraiment présent, et Pinterest aussi. Ça nous a posé aucun problème. Il n'y a pas eu de déperdition, il n'y a pas eu de moment de flottement. Là où c'est un vrai challenge, et ça le reste encore, parce que ça date d'il y a 3 semaines, et plus sur la partie référencement et SEO sur Google.
S'il y avait des conseils que tu pourrais donner à peut-être celles et ceux qui envisagent de changer leur branding, envisagent de se repositionner, c'est quoi les écueils à éviter ?
Les écueils à éviter, c'est un peu... Bon, il y aura toujours un peu de perte, je pense, mais nous, ce qui a été clé et ce qu'on voulait vraiment, c'est que tout soit prêt, c'est-à-dire que le jour où on appuie sur le bouton, il n'y ait plus aucune nouvelle communication qui parte avec l'ancien nom. On a quand même gardé, et je pense qu'on va garder assez longtemps, la mention ex de reporter, qui permet quand même aux gens de savoir de qui on parle, parce que nous, ça fait des mois qu'on prépare ça, donc Chosen, on sait très bien qui c'est, mais c'est vrai que pour les nouveaux clients, c'est pas le cas. Un client va pas forcément être sur Instagram les premiers jours du changement, donc il y a aussi cette notion de répétition qui va être hyper importante et qu'il faut prévoir dans sa communication, et donc nous, on a essayé de mettre en place, et puis voilà, garder au maximum l'ancien nom sur tous les supports. Enfin, je pense que, enfin, nous en tout cas, c'est vraiment un gros point de vigilance qu'on a eu. Et puis après, il y a plus sur la partie, comme je disais, SEO, qui là, encore une fois, est hyper compliqué, mais il y a côté technique des redirections. Nous, notre CTO s'est attaché à mettre en place des redirections 301 qui sont la bonne pratique, entre guillemets, de Google. Et puis, voilà, ensuite suivre ça au quotidien et essayer de voir s'il n'y a pas de déperdition, s'il n'y a pas de chute de trafic immédiate. Donc, avoir un vrai suivi pendant les premières semaines, je pense que c'est essentiel.
Alors, si on revient un petit peu sur le why, la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ça, est-ce que tu penses qu'avec juste un petit mois de recul, hein, c'est peut-être un peu court, tu te dis « Ah, on a bien fait ». Tu vas peut-être pas nous dire l'inverse aujourd'hui. Et deux, tu commences à sentir des premiers signaux qui te disent « Ouais, on va dans le bon sens ». Et le fait d'avoir changé finalement ce nom et ce branding autour de votre entreprise, ça y est, on est sur la bonne voie. Tu peux nous en parler ?
Nous, déjà côté coiffeur, on sent que la marque attire un petit peu plus l'attention. Nous, on a donc des candidatures de coiffeurs qui remontent régulièrement, et c'est vrai que ça y est, le nouveau nom s'est déjà fait une place, il est très vite mémorisé. Et après, au niveau de la communication, c'est vrai que pour nous, il y avait un vrai enjeu de notoriété, de notion de prononciation, un mot facile à orthographier. On est aussi hyper contents parce que, alors, on a eu une belle visite la semaine dernière sur Europe 1, et donc j'imagine bien qu'à l'époque, si le nom avait été The Reporter, on n'aurait pas forcément eu les mêmes retombées de trafic que Chosen, beaucoup plus facile à prononcer, mais aussi très facile à épeler. Donc non, a pu être épelé à la radio, ce qui, je pense, a beaucoup aidé pour générer du trafic. Cet objectif-là est réussi.
Donc ça, c'est les premiers signaux qui disent « Ok, on a bien fait et on va dans le bon sens », c'est plutôt une bonne chose. Pour reprendre un tout petit peu certains de ces éléments, Chosen, bon, comme The Reporter pouvait l'être, mais ça, vous avez des velléités et des envies de vous développer très fortement à l'international, ou souhaiter rester pour l'instant dans un périmètre plutôt de proximité en France ?
Alors, pour le moment, on va dire que les objectifs sont déjà à l'échelle nationale, puisque pour le moment, nous, on est présents en région Île-de-France et on a cette ambition de se développer sur les prochains mois / années dans d'autres villes pour couvrir vraiment le territoire national. Mais c'est vrai qu'on a une ambition qui va au-delà, et c'était important pour nous, du coup, d'avoir un nom qui ne soit pas une barrière au moment où on souhaite passer à l'échelle internationale, et ce ne sera pas le cas avec Chosen.
Alors, on va revenir un petit peu sur cette période fraîche, puisque à moi, c'est Christian qui te demande, bien que le lancement soit récent, y a-t-il eu de belles surprises, voire des nouvelles pistes d'engagement ? Et c'est quoi les bons ? Tu nous as parlé de ce qui s'est passé avec Europe 1, magnifique, c'est une belle surprise. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, justement, vis-à-vis des coiffeurs, ou vis-à-vis peut-être aussi des clientes ou des clients ?
Des belles surprises, Alors, des surprises, je crois pas, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de remontées, et toute la communication qui a été faite au moment du nouveau nom, du rebranding, où on a expliqué en fait la démarche, c'est vrai que ça nous a permis aussi de remonter beaucoup de soutien de la part de notre communauté de clientes sur nos engagements, ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est assez difficile à générer habituellement, parce que c'est vrai que nous, on est une plateforme assez engagée, engagée côté coiffeur, puisque notre objectif, c'est vraiment d'être une alternative durable. La plateforme, on l'a co-construite avec eux. On s'engage vraiment à ce que ce soit une alternative dans laquelle ils sont valorisés, que ce soit financièrement, mais aussi que leur expertise soit valorisée. Donc, à travers ce rebranding, on a pu aussi remettre en avant ces engagements-là qui sont pas forcément, qui font pas l'objet de communication habituellement. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours très positifs là-dessus. Et on sent aussi, nous, dans les retours clients, qu'on a sur les feedbacks, parce qu'en fait nos clients notent leur rendez-vous avec leur coiffeur, que ces intentions, ces engagements reviennent alors qu'ils revenaient moins avant. Donc je pense que tout le travail qui a été fait pour présenter la nouvelle marque et les valeurs qui étaient derrière nous ont aidés à faire passer ces messages et aujourd'hui résonnent beaucoup plus chez les clients.
Petit retour d'expérience, moi je voudrais que tu partages avec celles et ceux qui nous regardent, qui vont nous voir tout à l'heure, peut-être après sur le replay ou pendant le podcast. S'il y avait, allez, 4 points clés à retenir du rebranding de sa startup, si tu devais faire une sorte de tuto, un conseil que tu pourrais donner à un de tes meilleurs amis qui a envie de changer, de rebrander sa startup, ça serait quoi tes 4 conseils ?
Alors, je dirais le premier, c'est de choisir un nom qui va aider à faire, à porter un message, puisque c'est vrai que nous, c'était un peu le défaut de The Reporter, il n'y avait pas de vrai message derrière, alors que quand on a une startup, c'est vrai qu'on a forcément une offre avec une vraie promesse. Donc si le nom réussit à faire transparaître la promesse, moi je pense que c'est vraiment un gain d'efficacité et de notoriété sur la promesse. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de penser vraiment global et donc pas uniquement le nom, mais est-ce que mon expérience, est-ce que mon identité graphique vont vraiment créer une cohérence avec ce nom-là ? Pour le deuxième point. Sur le troisième conseil, je dirais impliquer au maximum tous les intervenants, que ce soit évidemment en interne, parce que c'est l'équipe qui va porter à la fois la mission, mais qui va porter ce nouveau nom. Mais aussi, c'est vrai que nous, on a beaucoup séquencé pour intégrer d'abord nos coiffeurs et puis ensuite notre communauté de clientes. Donc, pensez vraiment à tous les acteurs comme des porteurs de ce nouveau nom, il faut qu'ils se l'approprient. Et le quatrième point, je dirais, au moment du lancement, d'essayer de donner le plus de résonance possible. C'est vrai que nous, l'équipe com a beaucoup travaillé sur nos différents supports pour les adapter, mais aussi avec une campagne RP et une campagne d'influence pour pouvoir faire passer très rapidement le message de ce changement de nom. Donc, je dirais que ce serait mes 4 conseils.
Bravo, parce que c'était totalement improvisé, donc bravissimo. S'il y avait, peut-être une chose où tu dis maintenant, avec l'expérience que tu as eue entre l'idée initiale, le fait générateur, en disant tiens, bon, on va se faire le rebranding, on va repositionner notre activité, le nom de notre entreprise, etc. S'il y avait une chose ou deux à que tu ne referais pas, ça serait quoi ? Que tu éviterais, ça serait quoi ?
Bonne question. Alors, nous, il y a une chose qui aujourd'hui est toujours très présente dans l'opérationnel et qui est un gros point de vigilance, c'est sur la partie, comme je te disais, SEO, référencement. Je pense que avec du recul, peut-être qu'on aurait essayé de retravailler un petit peu plus peut-être nos contenus, la façon de rediriger vers le blog. En fait, nous, on a différents modules sur le site et c'est vrai que voilà. On s'est dit, on va changer de nom, ça va être assez simple, mais on avait certainement un peu minimisé l'impact que ça pouvait avoir sur la partie référencement. Donc, avec le recul, je pense qu'on passera un petit peu plus de temps sur cette partie, même si on s'est quand même fait accompagner. Je dirais là-dessus. Sur le reste, franchement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau. Donc, si c'était à refaire, on referait à peu près de la même façon.
Excellentissime. Donc, ça veut dire bien cartographier tous ces points de contact, en fait, de tout l'univers, à la fois pour votre communauté de coiffeuses et coiffeurs, et puis aussi pour les clients. Question de Patrick, plus technique, celle-ci. Le rebranding est-il pris en charge ? Est-ce qu'il y a une procédure administrative par l'INPI ? Ou est-ce qu'il y a des guides, des conseils, des endroits où on peut se dire, bah tiens, il faut ne pas oublier ceci ou cela? Parce que c'est vrai qu'on met tout de suite le doigt dans quelque chose extrêmement complexe, non?
Oui, effectivement. Alors moi, je n'ai pas trouvé de guide hein, qui donne un peu la to-do de tout ce qu'on doit faire pour son rebranding. En revanche, l'INPI, c'est évidemment une case obligatoire. Nous, on a déposé cette marque il y a un moment maintenant, hein, parce que comme on l'avait trouvé bien en amont du lancement du site, donc la marque a été déposée au même titre que l'ancienne. On a dû aussi acheter évidemment nos URL, donc ça a été, on va dire, les deux petites procédures administratives slash tech à faire en amont.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chosen maintenant? Allez, on est à un mois de ce rebranding. Allez, je te demande un peu de faire appel à un peu de prospective. Dans un an, tu aimerais avoir coché quel type de case?
Je pense que la grosse étape pour nous maintenant, qu'on a un peu passé cette étape tech, c'est le déploiement à l'échelle nationale. On a beaucoup de demandes depuis le départ de clientes, mais aussi de coiffeurs qui veulent nous rejoindre et qui sont en province. Jusqu'à maintenant, c'était impossible à gérer opérationnellement. Maintenant, ça va le devenir. Donc, c'est vrai que là, les prochains objectifs, c'est aller développer 2, 3, 4 prochaines grandes villes en France d'ici l'année prochaine.
C'est tout ce que le mal qu'on peut te souhaiter, c'est de développer ces grandes villes. Je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur ce rebranding. On a vu le why, on a vu le comment. Si tu devais lister les choses les plus importantes au niveau du what, quoi? Qu'est-ce qu'on bouge? Alors, le logo, le nom, le choix du logo, ça n'a pas dû être simple aussi. Une fois que vous aviez le nom, vous y êtes pris comment là-dessus? Vous l'avez fait faire par quelqu'un d'externe? Vous l'avez fait en interne? Comment vous y êtes pris?
Non, on l'a fait faire par quelqu'un d'externe. C'est vrai que sur la partie graphique, jusqu'à présent, on avait fait beaucoup de choses par nous-mêmes avec mon associé Marie, parce qu'on aime ça. Aussi par simplicité, au départ, on avait vraiment tout travaillé. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de prendre un petit peu de recul. Enfin, ça fait tellement d'années nous qu'on est dedans que c'était assez difficile d'imaginer une nouvelle marque par nous-mêmes. Donc on s'est fait accompagner sur cette partie et on a intégré, on était trois, on va dire, décisionnaires sur le logo, sur la nouvelle charte graphique. Donc Marie, mon associée, Ségolène, notre directrice com, et moi. Et donc on a reçu plusieurs propositions et on a été très vite d'accord sur celle qu'on a finalement choisie.
Génial. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, hein, vous avez choisi de garder un nom à consonance anglophone. Hein, c'est ce que nous signale Edouard. C'était pour des ambitions européennes, voire peut-être plus loin à terme. Hein, tu nous en parlais tout à l'heure. C'était quoi le brief pour la personne qui vous a fait la version du logo? C'était quoi les guidelines? Vous lui avez dit quoi, en fait? Dans le brief, il y avait quoi?
En fait, on lui a transmis, évidemment, ce qu'on appelle jargon, notre plateforme de marque qui, elle, était déjà bien en place. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et vraiment, l'objectif, c'était d'axer le nom sur la mission et, comme je te le disais au départ, aussi beaucoup sur notre différenciation. On est sur un marché qui est assez concurrentiel, hein, la plateforme de mise en relation de services à domicile globalement. Alors nous, on est vraiment sur ce vertical coiffure, mais on a quand même pas mal de concurrents, mais on est les seuls à avoir une offre qui se différencie par justement cette notion de matching. Et donc, on voulait vraiment que le nom évoque cette différence-là, sans forcément rentrer dans un nom technique qui n'aurait pas forcément de sens. Donc, l'objectif, c'était à la fois de coller à cette mission, à la fois d'avoir une marque qui se veuille ambitieuse, même visuellement. On voulait garder une marque très désirable, avec des tons assez clairs, assez doux globalement, mais avec des touches assez fortes qui viennent quand même marquer l'ambition et cette transition. Donc ça a été ça vraiment le brief. Coller à cette mission et coller à l'ambition.
Le choix de la typo que vous avez choisi pour ce nouveau logo, elle cherche à exprimer quoi en fait?
Y a un côté assez simple, on va dire, mais aussi avec le petit O renversé, il y a cette idée de un peu décalée, de faire les choses autrement. On nous a proposé différentes typos et c'est vrai que celle-ci, on se reconnaissait pas mal dedans parce qu'on la trouve à la fois élégante, à la fois assez moderne, avec ce jeu du haut. Et globalement, en fait, elle s'inscrit hyper bien, on trouve, dans l'intégralité de la plateforme, de l'identité graphique. Et elle se joue avec différentes couleurs. Donc, c'était aussi ça, une volonté et un prérequis pour la typo.
On a vu le nom, on a vu la typo. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le rebranding à intégrer ? Est-ce que dans la façon de raconter l'histoire, est-ce que dans le storytelling aussi autour de Chosen, maintenant, cette nouvelle entreprise, finalement, c'est un peu une nouvelle entreprise, revisiter, retravailler. Vous avez changé des choses dans le storytelling ou pas du tout ?
Non, pour le coup, le storytelling est resté le même. En revanche, comme je te disais tout à l'heure, je pense que le nom permet vraiment de boucler la boucle et de permettre, que ce soit aux clients ou aux coiffeurs, de bien noter notre différenciation. Donc, je pense qu'il appuie le discours qu'on avait avant. En revanche, le discours est resté le même, la promesse est restée la même. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de changement.
Tout a changé, sauf l'esprit, ça, sauf le modèle économique. Mais c'est se dire, finalement, ce rebranding, si j'ai bien compris, c'est une occasion de reposer, finalement, la plateforme pour accélérer, en fait, pour aller beaucoup plus loin, c'est ça ?
Exactement.
Bon, ben bravo pour cette belle mutation, c'est génial. On va suivre, hein. On va suivre les aventures de Chosen maintenant. Merci à toi, Sophie, magnifique. Je pense que toutes celles et tous
Merci
ceux qui sont
beaucoup.
Présents pendant le direct, vous pouvez faire, c'est l'heure du rôti, le return money time invested. Vous avez appris plein de choses. Vous pouvez faire des 5, des étoiles, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, ne revenez pas. C'est pas grave, ça sera beaucoup plus simple. Merci à vous tous. On se retrouve bien sûr sur le podcast, hein, épisode du podcast. Vous cherchez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Hashtag Brown Bag Lunch Live. Oui, c'est long, je sais, c'est long, mais bon, c'est pas grave. On va pas le rebrander non plus, hein, c'est pas évident. Et vous pourrez écouter cette conversation avec Sophie. Là, c'est un cri. Dernière question de Christian, peut-être commentaire. Un rebranding ne se limite pas à juste changer de nom. Entre démarche et identité visuelle en passant par le SEO, c'est un vrai défi qui se prépare et demande aussi d'oser. Bravo et merci pour ce témoignage, Sophie. Ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'il fallait oser.
Merci beaucoup.
Bravissimo à toi. Mes amis, mille merci. Il est 12h59. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, un sujet intéressant. Ou aussi, encore un sujet intéressant. On va parler des robots logiciels au service des collaborateurs. Ça sera avec David Leborn. Il est Country Manager France chez Leapwork. Je vous en dis pas plus, vous allez apprendre plein de choses, les robots logiciels au service des collaborateurs. Juste fabuleux. Mille merci à toi, Sophie, et à très très vite pour vos prochaines aventures. Merci à tous, mes amis. Vous êtes formidables. Merci à vous. Ciao, ciao.
Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brown Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.